RFI, 8h30 à Paris, 6h30 à Abidjan et en temps universel.
RFI Matin.
Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Édouard Dupénoit.
Et cette nouvelle audience pour Tidiane Thiam en Côte d'Ivoire, un journal qui commence donc à Abidjan, où la justice examinait hier la plainte d'une militante PDCI. Elle estime que l'élection de Tidiane Thiam à la tête de ce parti d'opposition n'aurait pas dû advenir en raison toujours de sa binationalité. Le soulagement des victimes et de leurs proches au Sénégal, la décision du Conseil constitutionnel qui rend possible l'espoir d'une justice pour celles et ceux qui ont subi des violences entre 2021 et 2024, et ce, quoi qu'en disent les déclarations politiciennes de ces derniers jours entre le pouvoir et la majorité. Au Bénin, choc unanime et colère ponctuelle, le pays entier plongé dans la stupeur après l'annonce de la mort de 54 militaires dans l'attaque du Point Triple dans le nord du pays il y a une semaine. On vous parle aussi de cet arbitrage devant le CIRDI initié par l'entreprise canadienne Barrick Gold, toujours dans son litige fiscal avec les autorités de transition de Bamako. Et puis un album photo intime pour raconter la vie d'un empereur. Ça se passe en Éthiopie et c'est le dossier de ce journal dans 10 minutes.
La justice ivoirienne penchée sur une autre affaire autour de Tidiane Thiam.
Alors que son parti, le PDCI, tente donc de mobiliser et de fédérer autour de son président. Pour rappel, la justice ivoirienne a ordonné cette semaine sa radiation des listes électorales, ce qui le rendrait inéligible à l'élection présidentielle du mois d'octobre. 200 militants environ se sont réunis hier devant les locaux du parti, à Abidjan, dans le quartier du Plateau. En attendant, le tribunal de première instance de la capitale économique ivoirienne examinait donc la plainte d'une militante PDCI. Elle remet en cause la légalité de l'élection de Tidiane Thiam à la tête de cette formation il y a un an et demi. Et c'est Binta Diagne, notre envoyée spéciale permanente, qui nous raconte.
Valérie Yapo est une militante de longue date du PDCI. Elle est membre du bureau politique. Elle affirme contester depuis le tout début la manière dont Tidiane Thiam a été élue à la tête du parti. Alors que sa candidature pour la présidentielle est menacée, Valérie Yapo assure ne pas être manipulée et justifie sa démarche.
En 2023, quand il se faisait élire, il n'avait pas 10 ans de bureau politique. Il n'est pas militant actif. C'est nos premiers critères. Il ne s'était pas libéré de son allégeance française et il s'est fait élire président du PDCI. Et selon nos lois en Côte d'Ivoire, un Français ne peut pas diriger un parti politique.
Pour le porte-parole du parti, Soumaïla Bredoumi, l'élection de Tidiane Thiam à la tête du PDCI ne souffre d'aucune irrégularité.
En 2023, il était déjà sur la liste électorale. Il avait tous les papiers. Donc comment on peut accuser quelqu'un de n'être pas ivoirien alors qu'il était inscrit sur la liste électorale? Et pour être inscrit sur la liste électorale, il avait tous les documents ivoiriens. Tout ça là, c'est une orchestration politique.
La reprise de ce procès est prévue le 8 mai prochain. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
L'ensemble de la classe politique sénégalaise semble voir midi à sa porte avec la décision du Conseil constitutionnel. Les sages qui ont retoqué en partie la modification de la loi d'amnistie, ce projet porté par les députés PASTEF, majoritaires à l'Assemblée, qui entendait revenir sur ce texte issu de l'ancienne majorité. L'opposition actuelle applaudit. Elle juge que le Conseil vient désavouer la majorité, majorité qui applaudit elle aussi. Elle considère de son côté que les sages lui donnent en partie raison. L'avancée indéniable de cette décision, ce sont en fait les familles des victimes qui en parlent le mieux. Certains crimes et exactions subis entre 2021 et 2024 sont bel et bien passibles de poursuites devant les tribunaux. Juliette Dubois.
Le doute n'est désormais plus permis. La loi d'amnistie votée en mars 2024 pour les faits commis lors des manifestations politiques ne couvre donc pas certains crimes listés par le Conseil constitutionnel, dont les meurtres, assassinats ou actes de torture, conformément aux accords internationaux ratifiés par le Sénégal. Une clarification, un soulagement pour Diop Taïf à la tête du collectif des familles de victimes.
Le Conseil constitutionnel a édifié les Sénégalais sur cette fameuse loi d'amnistie, qui était très floue et incompréhensible aux yeux de tous les Sénégalais et puis de justice. Et la décision du Conseil constitutionnel nous donne carte blanche, nous les victimes.
Les personnes concernées par ces crimes pourront réclamer justice dans les tribunaux du pays. Papa Abdoulaye Touré, étudiante en droit, dit avoir été torturé par des forces de l'ordre lors de son arrestation en 2023. Vidéos à l'appui. Pour lui aussi, les choses vont avancer dans sa plainte contre plusieurs hauts responsables, comme l'ancien ministre de l'Intérieur et l'ancien chef de la gendarmerie.
C'est un grand soulagement. Après 7 mois, j'étais la seule personne qui a été auditionnée. Maintenant, aujourd'hui, vu que les choses sont claires dans l'esprit de tout le monde, donc le procureur de la République, désormais, il peut demander à ce que toutes les personnes présumées être auteurs ou co-auteurs ou commanditaires de ces actes de barbarie puissent être auditionnées.
Diop Taïf annonce qu'un comité sera créé avec les victimes ainsi que des avocats et militants des droits de l'homme pour porter les plaintes qui sont nombreuses. Juliette Dubois, Dakar, RFI.
Le Bénin encore profondément secoué par le bilan humain de l'attaque du 17 avril dernier dans le nord du pays. À Koudou et dans la zone du point triple aux frontières avec le Niger et le Burkina Faso, le choc laisse désormais place peu à peu à une forme d'indignation. Le porte-parole du gouvernement béninois, Wilfried Ungbeji, annonçait avant-hier le bilan de 54 militaires tués. La condamnation de cette attaque est unanime à travers le Bénin, mais certaines voix désormais dénoncent une communication gouvernementale incomplète, voire tardive. Correspondance RFI Jean-Luc Aplogan.
Les Béninois, toute région, tout bord politique et toute religion confondue, ont condamné le carnage du jeudi 17 avril au point triple et à Koudou. L'opinion publique est choquée et révoltée, mais s'en prend tout de même au gouvernement pour son silence des premiers jours et sur le bilan donné en deux temps et à quelques jours d'intervalle. Beaucoup le déplorent et l'assimilent à un maquillage de chiffres. D'autres se demandent pourquoi, une semaine après, Patrice Talon n'a pas décrété un deuil national et mis les drapeaux en Berne. Mercredi, Wilfried Ungbeji présentait aux familles éplorées les condoléances du gouvernement. Chaque famille endeuillée devrait recevoir un courrier de compassion et de soutien du ministre de la Défense. Ça a été le cas lors des attaques du 8 janvier. En dehors des appels à l'union sacrée et au patriotisme, signalons cette recommandation du parti d'opposition Les Démocrates. La formation demande au gouvernement d'engager des concertations urgentes et sincères avec les pays voisins. Avant lui, Wilfried Ungbeji reconnaissait que cette coopération sous-régionale était impérative pour mener une riposte plus efficace. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Le groupe minier Barrick Gold prête un combat de plusieurs années contre Bamako.
Le Mali, qui, on le rappelle, réclame des dizaines de millions de dollars à l'entreprise au titre d'arriérés d'impôts. Et cela en vertu du nouveau code minier établi l'année dernière. La tension n'a cessé de croître ces derniers mois. L'entreprise canadienne assure qu'elle a déjà versé 85 millions de dollars, mais elle accuse Bamako d'aller à l'escalade. Notamment après que les autorités de transition ont fait fermer les bureaux de Barrick dans la capitale et qu'elle menace de reprendre le contrôle provisoire de l'immense mine de Loulo-Gounkoto. Le groupe dit toujours rechercher une solution à l'amiable, mais en parallèle, il a initié une procédure d'arbitrage auprès du CIRDI, c'est l'organisme dédié de la Banque mondiale. Charlotte Cosset, la procédure peut être particulièrement longue.
Barrick a désigné le premier arbitre, deux autres doivent encore être nommés, un par le Mali et un troisième choisi conjointement. Après cela, un calendrier sera défini. Mamadou Gakko, avocat au barreau de Paris, spécialiste des questions d'arbitrage international.
Classiquement, il y a deux phases. Il y a une première phase de procédure écrite. À l'issue de cette phase écrite, il y a une phase orale qui consiste en une audience. Des experts et témoins peuvent être entendus et l'affaire peut être plaidée par les parties. Alors, la durée totale de la procédure est très variable d'une affaire à une autre. On peut l'estimer à au moins 3 ans, mais elle peut être beaucoup plus longue.
Une procédure qui prendra plusieurs années, estime l'avocat.
Barrick a initié l'arbitrage et le Mali ne peut plus à ce stade revenir sur cette offre d'arbitrage. Donc le Mali est lié par la procédure et donc celle-ci se déroulera quelle que soit son attitude à son égard. Et il est important de relever que la décision qui sera rendue s'imposera au Mali comme une décision de justice et que Barrick pourra en l'occurrence l'utiliser pour saisir par exemple des biens maliens si Barrick obtient une condamnation de l'État malien dans cette procédure.
Une procédure qui n'empêche pas les parties de régler leurs différends à l'amiable, comme assure le vouloir Barrick. En cas d'accord hors de l'action menée auprès du CIRDI, il sera alors mis fin à l'arbitrage.
À Charlotte Cosset à 6h39 à Bamako, même heure à Conakry, des lycéens, des lycéennes de Guinée qui décernent pour la première fois un prix littéraire et qui font montre de leur engagement sociétal. Ces jeunes étudiants ont choisi de récompenser le roman Sens interdit de l'autrice Mabéti Souma. Il et elle étaient 200 à devoir départager 5 œuvres et le nom de la lauréate a été annoncé à l'occasion des 72 heures du livre de Conakry, qui continue d'ailleurs aujourd'hui encore. Pourquoi ce roman? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que les votants disent à travers leur choix? Reportage Tanguy Billon.
Au sortir du Palais du Peuple, où le prix lycéen a été remis, Fatoumata, élève au lycée Nelson Mandela de Conakry, résume le drame de l'intrigue.
C'est une adolescente qui va tomber amoureuse d'un jeune garçon. Ils vont commencer une histoire d'amour, elle va bien aimer, mais sauf qu'elle va tomber enceinte, malheureusement. Une grossesse non désirée. et elle va se faire jeter par le garçon et aussi par sa famille. Donc elle sera obligée de confronter toute seule ce problème.
Macamara, en uniforme scolaire, apprécie que l'autrice ait abordé un problème de société majeur.
Ce livre est important selon moi parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, lorsqu'elles sont confrontées à ce genre de situation, elles finissent par sauter la vie, par se suicider et autres.
Finalement, grâce au soutien de certains proches, l'héroïne s'en sort, continue ses études et crée une association d'aide pour les mères célibataires. Macamara.
Ce livre nous prouve que ce n'est pas une fatalité, c'est quelque chose qu'on peut remédier, c'est quelque chose qu'on peut s'en sortir la tête haute aussi.
D'autres lycéennes glissent que c'est désormais aux parents de lire cet ouvrage pour les sensibiliser sur la question des grossesses précoces, un sujet encore tabou dans la société guinéenne. Tanguy Bihan, Conakry, RFI.
Un homme en vacances à la mer, un homme avec son petit chien sur les genoux. Le dossier de ce journal propose de feuilleter un album photo,
avec
Edouard.
Une spécificité tout de même, puisque cet homme n'est autre qu'Haïlé Selassie, dernier empereur d'Éthiopie. Une équipe de chercheurs qui a en fait soigneusement compilé des photos en grande partie méconnues de ce dirigeant dont la figure reste à la fois controversée mais aussi associée à une image biaisée, l'idée étant de remettre un peu de nuance pour comprendre cet homme disparu il y a déjà plus d'un demi-siècle. Marlène Panara.
Dans les couloirs de l'université d'Addis Abeba, Chirefo Bekele feuillette les 250 pages de l'imposant ouvrage. La première photo, le palais et ses colonnades devant lesquelles défile un bataillon de soldats à cheval, exalte la puissance de l'empereur Haïlé Selassie. Pour l'historien, cette image d'Épinal est gravée dans l'esprit de beaucoup d'Éthiopiens.
Une bonne partie de la population l'apprécie, l'admire, le vénère même. Il le considère comme un grand leader, un sage, qui a fait passer le pays de l'ère médiévale à la modernité.
À travers des photos plus personnelles et des anecdotes, le livre souhaite réhabiliter l'image d'Haïlé Selassie. Des photos montrent l'empereur en famille à la mer ou assis dans un fauteuil avec son chihuahua, un petit chien noir dont il ne se sépare jamais. Une façon d'adoucir l'image du dirigeant dont la figure reste controversée dans la société éthiopienne.
Le livre met en lumière des aspects de la vie de l'empereur qui n'étaient pas connus jusqu'ici. Sa vie privée, familiale, les Éthiopiens comme les Africains ont le droit d'en savoir plus sur cet homme, d'avoir une image complète de cet homme.
80 photos illustrent ce livre. Elles proviennent d'un lot de 10 000 images retrouvées en 2018 dans le Palais National à Addis Abeba. Chirefo Bekele explique.
L'équipe a pu sélectionner un petit nombre de ces photos. Nous avons ensuite informé une plus large communauté de chercheurs, de journalistes, de l'existence de ce corpus.
Haïlé Selassie, les albums photos du palais, est édité en français, en anglais et en amharique aux éditions Chama Books.
Marlène Panara, est-ce que par ailleurs on peut être objectif aujourd'hui sur le règne d'Haïlé Selassie? Qu'est-ce qui relève du réel? Qu'est-ce qui relève de la réécriture de l'histoire a posteriori? Ewan Semonmari est professeur d'études éthiopiennes à l'université de Hambourg.
En général, quand les choses ne vont pas bien, les gens ont tendance à enjoliver le passé. Mais il a beaucoup d'admirateurs. Cette dévotion vient en fait de ce qui s'est passé après son règne. L'augmentation de la violence, la mise en place de politiques ethniques, le niveau de pauvreté. Ces comparaisons font donc penser aux gens que Haïlé Selassie était bon. Aujourd'hui, c'est dans le domaine politique qu'on observe une certaine continuité de ce que Haïlé Selassie avait commencé, comme le développement de l'éducation. Il a essayé de renforcer l'accès à l'école dans plusieurs partie du pays. Certains soutiennent aussi qu'il a mis en place un système de contrôle total depuis Addis Abeba, où il essayait de tout décider lui-même, et qu'il y a donc aujourd'hui des réminiscences de cette administration.
Ewan Semonmari, professeur d'études éthiopiennes à l'université de Hambourg, à Addis Abeba, où il est 9h44 et où RFI Matin continue. Vous êtes avec Julien Coquel-Rohem.
Et je remercie Edouard Dupénoit pour le journal. On vous retrouve tout à l'heure, Edouard.